Alep, de l'éducation populaire à Blois. Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir à toutes et à toutes. Et à tous, et bienvenue dans l'émission de l'ALEP de l'éducation populaire à Blois pour présenter le programme culturel du mois d'avril. Nous, on n'a pas grand-chose en avril, on a seulement un concert à la fin du mois, un concert d'Agnès Bille, autrice, interprète à part dans la nouvelle scène française, romancière et écrivaine engagée. Agnès Bille n'en finit pas de sillonner la France pour chanter ses chansons, ses amours, ses colères, aux côtés d'Anne Sylvestre, Yves Jamais ou Charles Aznavour, avec qui elle a notamment collaboré. Elle a rencontré un succès grandissant et continue d'étonner par sa plume, belle et rebelle, femme de son époque à fleur de peau. Agnès Bille est avant tout une grande humaniste qui continue de s'émouvoir et qui sait dépeindre une société dont les travers l'indignent autant que les espoirs la soulèvent. Et on dit aussi reconnue comme une des plus belles plumes de la nouvelle scène française dès ses débuts en 1998, elle revient en 2022 avec des chansons nourries d'un engagement féministe sans cesse renouvelé et d'une émotion toujours à fleur de peau. Et donc ça, c'est à la fin du mois, le vendredi 29 avril à 20h30. On va écouter une petite musique d'Agnès Bille, mais avant, parce que j'ai oublié de le faire, on va peut-être accueillir nos invités qui sont en plateau ici chez Studio ZEF. Comme souvent, bonsoir Virginie, directrice de l'ALEP.
Bonsoir Mélanie, bonsoir à toutes et à toutes, parce que c'est ça que tu as failli faire tout à l'heure.
Oui.
Mais pourquoi pas,
bon, pourquoi pas finalement. Bonsoir Radija.
Bonsoir Mélanie, bonsoir Virginie.
Donc Radija, tu es médiatrice culturelle à l'espace Quinière Rosa Parks.
Tout à fait, c'est bien ça.
Voilà, et tu vas nous parler de ce qui se passe en avril et un peu après à l'espace Quinière, juste après. On écoute Agnès Bille avec sa chanson « Fille d'ouvrier ».
Pâle ou vermeille, brune ou blonde, bébé mignon. Dans les larmes, ça vient au monde, cher Aguignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, ça pousse, cher à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine, joli bétail. Du matin au soir, ça turbine, cher à travail. Fleur de ruelle, ça s'étiole quand c'est giron. Dans un guet-apens, ça se viole. Cher à patron, jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent. Alors ça devient belle de nuit, cher à client. Ça tombe encore de chute en chute, et un beau soir, pour deux balles, ça fait la culbute. Cher à trottoir, ça vieillit, et plus bas ça glisse, honteuse. Un soir, ça se fait prendre par la police, cher à flicard. Ou bien sans papier, ça travaille dans les bas-fonds. Alors ça finit sur la paille, cher à prison. Malade, souffrant le supplice, claquant des dents. Ça termine dans un hospice, cher à savon. Bien sûr, ça se regarde à la loupe, joli modèle. Quand c'est crevé, ça se découpe, cher à scalpel. Banquier, politicien, c'est bien fini. Quand vous tomberez entre nos mains, cher à fusil. Pour que chaque chien sur votre ogne pisse à l'arrêt, nous leur laisserons vos charognes. Cher à fumier.
On est de retour sur le plateau de Studio ZEF avec l'émission de l'ALEP pour le mois d'avril. Et on va discuter avec toi, Radija. Donc, qu'est-ce que tu as à nous présenter pour le mois d'avril? On va d'abord parler du projet GRAPH, si je peux l'appeler comme ça.
Oui, le projet GRAPH, c'est bien, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, déjà, pour resituer un petit peu ce projet, c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de Quinières Décale, hein, qui va démarrer aux vacances de Pâques, d'avril. Voilà, donc on va démarrer par une conférence donc qui sera proposée par Monsieur Plume plutôt, de son nom d'artiste, donc, le 12 avril à 17h30 à l'Espace Quinière, voilà, qui va nous parler de un peu l'histoire du Graff sur la place publique. Voilà. Bon, je ne vais pas en dire trop parce que je pense qu'on va l'avoir tout à l'heure au téléphone. Il pourra en parler bien mieux que moi. Alors voilà, donc on va commencer ses vacances avec cette conférence. Et puis, il y aura aussi des ateliers, toujours en lien avec le Graff, donc des ateliers cellographe. Alors, qu'est-ce que c'est que le cellographe ? C'est en fait une technique qui permet d'intervenir en mode graffiti, toujours sur l'espace public, mais de façon à ne pas déranger l'urbain. Voilà. Et c'est aussi la possibilité de faire des œuvres éphémères. Voilà, avant d'engager un projet plus poussé, on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard, sur un mur, sur un autre projet. Voilà, donc on va faire donc ces ateliers, cette conférence, qui vont un peu rythmer les vacances. Et il y aura d'autres rendez-vous qui seront proposés autour donc, du jardin partagé. Ensuite, un atelier de programmation cinéma, une projection qui aura lieu aux vacances d'été, voilà, donc une plein air le 21 juillet. L'ouverture de la ludothèque, comme toutes les vacances. Un atelier mandala. À la craie, donc sur l'espace public, toujours aux abords de la structure, des bricoles tout, donc voilà, des ateliers créatifs. Je vous donne ça un peu en vrac, hein, voilà, et aussi atelier numérique avec les collègues. Atelier patouille, donc ça c'est pour les tout petits. Et puis, une grande date à retenir, une représentation avec la Compagnie du Hasard, donc un projet donc, qui en fait qui a démarré en septembre avec les habitants sur le thème de Rosa Parks. Voilà, donc il va y avoir un résultat, donc un fruit de tout ce travail, une représentation donc le vendredi 22 avril à 18h30. Voilà, donc c'est un atelier qui est donc d'écriture et réalisation donc par les enfants et adultes qui a été accompagné par la Compagnie du Hasard. Et si je ne me trompe pas, c'est Maëlle, hein, l'intervenante, qui les a accompagnés.
Donc c'est des habitants et habitantes du quartier, c'est ça, qui montent sur scène pour retracer l'histoire de Rosa Parks.
C'est ça. Bon, après, c'est revu et corrigé avec les habitants. Voilà, donc a été adapté avec les enfants, bien sûr. Donc ça, c'est pour la première semaine. Pour la deuxième semaine, on pourra retrouver du land art, toujours bricole tout. On va créer des instruments de musique. Donc ça, tous ces ateliers-là, c'est avec les parents. C'est ça qui est intéressant, parents et enfants. Toujours des activités autour d'un ou deux jeux, donc avec la ludothèque. Et puis, quoi d'autre toujours des ateliers numériques. Sur le thème du cyberharcèlement, donc le mercredi 13 avril. Ah non, ça c'est la première semaine, pardon, je me suis trompée.
T'as pas appris ta leçon?
Non, j'ai pas appris ma leçon. Il y a tellement de choses aussi, il faut dire. De l'éveil musical pour les enfants. Un atelier cuisine sur le thème de Pâques. On n'a rien inventé. Et puis, surtout, un accueil tous les jours à l'espace Quinière, pour faire plein de choses tout seul, accompagné ou en famille. Hein, voilà, donc,
On peut retrouver les informations sur le site de la ville de Blois, il me semble.
Tout à fait, www.blois.fr. Vous avez le programme en détail et plus précis que ce que je viens de vous raconter.
Et un dépliant, l'espace Quinière, Rosa Parks.
Voilà, qui a été réalisé par notre cher collègue Bénédicte, à qui je fais une dédicace.
Et pour revenir sur le projet Graff, est-ce que tu peux nous expliquer comment l'idée est née de parce que tu as commencé à évoquer le fait qu'il y aurait un mur à un moment donné dans le quartier qui serait graffé. Comment cette idée est venue ?
Alors, en fait, ce qu'il faut repréciser, c'est qu'en fait, c'est un projet qui s'est inscrit dans le cadre de Quignières Décales. Donc, en résumé, en deux mots, Quignières Décales, c'est des animations sur l'espace public. Voilà, pour aller à la rencontre des habitants, parce que c'est quand même une de nos préoccupations, voilà, donc d'aller à la rencontre des habitants, de favoriser leur participation, et puis aussi, bon, de contribuer au développement social local, voilà, qui est aussi un de vos axes à l'ALEP. Voilà, donc en fait, Quignières Décales, pour cette année, donc on sera sur la 6e édition, et on se réunit avec plein de partenaires, hein. Je peux peut-être les citer, il y en a beaucoup, hein. Donc c'est une réflexion qui est menée avec tous ces partenaires, hein. Donc je les cite, hein, la pension d'Emmaüs, le service de prévention spécialisée, Culture du Cœur, Loir-et-Cher Logement, Que Choisir, la gestion urbaine de proximité, la jeunesse, le PRE, le quartier de proximité.
Tu peux préciser le PRE ?
Projet de réussite éducative, pardon, avec tous ces sigles, on s'y perd. L'espace Mirabeau, vous-même, hein, l'ALEP, Studio Zef. Hein. Voilà, donc en fait, tous ces partenaires qui font partie des acteurs sur le territoire de l'Ouest font des propositions pour des thèmes. Voilà. Cette année, on a retenu le graphe pour avoir un fil rouge, hein, et puis pour essayer de sensibiliser le public à une forme d'expression, voilà, qui est le graphe. Et aussi parce que on avait envie, là, depuis toutes ces années, hein, qu'on va sur l'espace public, c'était aussi d'inscrire un projet, en fait, un peu plus visible, un peu quelque chose qui reste pour essayer de marquer comme une identité dans le quartier. Voilà, quand on réfléchit, quand on observe ce qui se passe ailleurs, dans nos quartiers voisins, on sait qu'il y a des temps forts, on sait qu'il y a des choses qui réunissent les gens. Je pense au quartier Nord, je pense à Mixter, je pense au quartier Vienne. On se retrouve autour de la Creusie. Voilà. Et c'est vrai qu'à la Quignière, on n'a pas forcément ces temps forts sur l'espace public. Voilà. Donc on s'est dit peut-être qu'un graphe, c'était une première façon d'inscrire quelque chose sur un territoire, et peut-être qu'autour de ça, il y a des choses qui vont germer. Voilà. Et puis aussi pour interpeller les habitants sur ce qui les entoure. Et puis voilà. Puis comme on a choisi un artiste qui graffe des choses assez colorées, ça va forcément interpeller les gens, voilà, les interroger dans leur vie quotidienne.
Et donc, pour le moment, on ne sait pas ce qui sera graffé, c'est ça ? Et ça sera une décision collective avec les personnes
Alors, c'est pas une décision collective. En fait,
oui, c'est lui l'artiste quand même.
C'est quand même l'artiste. Voilà. En fait, on a choisi cet artiste parce que, en fait, il représente des personnages avec un regard assez imposant et insistant. Comme on avait envie de cette idée de regard qui guette, en fait, dans le quartier. Donc, on a choisi cet artiste pour ça. Bon, pas que pour ça, parce qu'il y a une petite histoire derrière. Hein. Il a été blésois, il a fait ses études à Blois, il est au lycée Camille Claudel dans le quartier, il a fait ses études après à Éthique. Ouais. Voilà. Donc, c'est une façon aussi de revenir. Tout ça n'est pas anodin. Voilà. Et en tout cas, l'histoire du portrait, du visage, du regard, ça collait bien un petit peu à cette image qu'on voulait d'avoir un personnage qui peut représenter à la fois un habitant, un enfant, un personnage, un habitant. Voilà. Pour l'instant, on est plus là-dessus.
Et il s'appelle comment cet artiste ?
Il s'appelle Albert.
Oui, je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, si je peux me permettre. Quand tu dis, tu parlais des quartiers nord avec Mixter, avec la Creusie. Ici aussi, on organise avec l'espace Quignière, avec l'ALEP, avec d'autres partenaires, des événements. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément visibles. Et comment ?
Sur moi, j'entendais public. Sur l'espace public, en
oui,
fait.
Oui, mais aussi sur l'espace public. L'idée du graphe, effectivement, c'est de marquer le territoire. C'est que ça m'interroge. Effectivement, je crois que tu as raison en disant qu'on le voit plus sur les quartiers nord. Est-ce que Est-ce que c'est du fait que c'est un quartier hétéroclite de manière architecturale ? Est-ce que je te demande pas la réponse, hein. C'est des questionnements parce que ça, c'est comme si ça avait toujours été un peu ce territoire. Pas forcément tout le temps, mais ça a été marqué pendant longtemps avec le bâtiment, avec l'Alep pendant des années. Tous les gens de notre génération ont été marqués par cette association-là. Puis après, ça s'est arrêté plus ou moins. Le bâtiment Espace Kinia-Rosa Park marque le territoire, mais pas forcément de manière très, très importante. Qu'est-ce qui se passe sur ce territoire pour que ça soit moins représenté, ou en tout cas, nous, dans nos représentations, pourquoi ça nous paraît moins représenté que les quartiers nord, que le quartier Vienne ? Est-ce que c'est une question d'hétérogénéité ou homogénéité ? Enfin, voilà, ou est-ce que c'est juste nos représentations après, là autour de cette table, je sais pas.
Moi, c'est plus, je soulevais plus la question d'occuper l'espace public et d'avoir un événement, sur plusieurs jours, comme on peut vivre dans d'autres quartiers. C'est plus cette question-là. Après, à l'intérieur du bâtiment, il se passe des choses, bien sûr. Mais c'est plus de dire, comme en fait, on est un quartier quand même. Avec un environnement qui est très, plein d'atouts, très vert. Il y a plein d'atouts. On a le lac, on a le parc de la Roue, on a plein d'espaces verts en direction des familles. Mm-hmm. Voilà. Et je trouve qu'on n'exploite pas assez ces espaces-là autour d'événements phares qui peuvent être portés par l'espace Kinière. C'est dans ce sens-là.
D'accord.
Oui, c'est plus sur l'occupation de l'espace public d'un événement fort. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Donc. Voilà, après, les structures à l'intérieur ont fait plein de choses.
Oui,
ça bouillonne, hein, bien sûr.
C'était une question d'identité du quartier ou des quartiers, j'en sais rien. Enfin, quartier ouest, est-ce qu'il y a une identité ? Est-ce que les gens se sentent identifiés à leur quartier ? Enfin, tu vois, mais c'est que des questions, hein, j'ai pas de réponse.
C'est pour moi une question qui m'occupe pas mal l'esprit, parce que c'est vrai que ça fera bientôt 10 ans que je travaille à l'espace Kinière, et c'est vrai que... J'ai l'impression que la vie sur l'espace public, les habitants, l'occupation de l'espace public, on ne l'occupe pas de la même façon pour avoir travaillé dans d'autres quartiers, de la même façon. Voilà. Alors, est-ce que c'est propre à des cultures, des représentations, des communautés je ne sais pas, mais je pense qu'il y a des choses à inventer, il y a des choses à peut-être plus observer et à travailler, quoi, tout simplement. C'est dans ce sens-là. C'est aussi une façon de se réinterroger sur sa pratique professionnelle aussi.
Oui,
voilà.
Oui, bien sûr.
En tout cas, la parole a été donnée aux habitants et habitantes du quartier avec le projet Raconte-moi ton visage. Kinia, raconte-moi ton quartier, ton visage.
Oui,
c'est
ton
ça.
Visage.
Et,
c'est un peu une suite.
On peut écouter ces portraits sur... sur Studio Zef une fois par semaine, il me semble, le mardi.
Tu fais bien de soulever ça, ce projet-là, parce que c'est vrai que ça fait un peu écho à ça, parce qu'on était sur des visages, des portraits, hop là, on est sur du graphe, on est toujours sur le portrait, sur le visage. C'est en quelque sorte un peu une suite, j'ai envie de dire.
On va appeler Monsieur Plume, et puis on rediscutera de ça juste après.
Oui, allô.
Oui, bonjour Monsieur Plume.
Oui.
Oui, bonjour, c'est Studio Zef à l'appareil. Je suis Mélanie et donc il y a sur le plateau Radija et Virginie qui sont invitées aussi pour parler du projet sur le graphe et de ta venue pour la conférence du 12 avril. Est-ce que tu veux bien nous parler déjà te présenter, nous dire qui tu es et nous parler un peu de ton art ?
D'accord. Écoute, moi je suis Monsieur Plume, ça fait 25 ans que je pratique le graffiti de façon quasi quotidienne, et c'est une pratique, moi, qui me tient énormément à cœur, et c'est un peu pour ça que j'essaie, en tout cas dans ma démarche artistique, de la partager, de la mettre à profit pour des collectivités et des publics. Voilà, ça c'est une grande partie. Le graffiti est en grande partie le fait de dessiner sur des murs, de façon autorisée ou non à la base, mais là on sera complètement dans la légalité. Et puis le 12 avril, je vais essayer de parler de façon subjective, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit des choses, mais de parler de façon subjective de l'histoire du graffiti. En tout cas, de ce que moi j'en ai, de ce que j'ai appris sur le terrain, de ce que j'ai pu en découvrir au fur et à mesure. Et puis, je me suis pas mal renseigné, mais aussi j'ai essayé de voyager un peu et d'aller graffer surtout aux États-Unis et puis dans d'autres pays, de façon à comprendre un peu cette culture et voir un peu ce qui était véhiculé de décennie en décennie, puisque c'est une culture qui a plus d'une soixantaine d'années.
Et donc, oui, vas-y.
Ouais. Non, je vous en prie.
Non, mais du coup, qu'est-ce qui ressort de tout ça ? Est-ce que tu peux nous parler rapidement de cette culture du graffiti et comment elle a évolué avec le temps ?
Ouais. Alors, écoute, c'est une culture qui est née aux États-Unis, à New York. Pour moi, elle a un lien au départ avec l'abolition de la ségrégation, en tout cas la lutte contre la ségrégation qu'il peut y avoir dans les années 50 et les années 60 aux États-Unis. Et je pense que c'est un lien direct parce qu'effectivement, c'est une culture qui va naître des quartiers populaires. Ce qui veut dire que il y avait quand même, la fin un peu de la ségrégation, il va quand même y avoir encore des choses qui vont être inégales dans cette société américaine, et du coup, dont l'accès à la culture. Et ces populations qui vont se retrouver à vivre dans des quartiers qui vont être excentrés du centre économique de la ville de New York vont commencer à essayer de s'inventer, ou en tout cas de se donner des codes et de s'inventer une culture qui soit propre à eux et qui permette aussi de valoriser leur culture et leurs connaissances. Et ça va donner naissance à la culture hip-hop. En tout cas, c'est un peu ce qui va se passer. Et dans la culture hip-hop, il va y avoir quatre disciplines qui vont être la danse, le DJing, le rap, c'est-à-dire le MC, le maître de cérémonie, celui qui va déclamer les textes. Et puis le graffeur qui, lui, va dessiner un peu cette culture. Ça, c'est un peu la naissance. Et au fur et à mesure, en fait, c'est... je crois que c'est cette forme d'éducation populaire, cette espèce de savoir-faire qui va se propager de pays en pays, en tout cas, parce que les gens vont se l'approprier et puis ça va donner sens aussi à une classe sociale. Voilà, ça c'est un peu la base.
Tu n'en dis pas trop là, parce que parce qu'après.
Comment ?
Je n'en dis pas trop parce qu'on t'attend pour le 12 avril. Hein.
Oui, non, mais j'en dis pas trop, mais en tout cas, j'essaie de susciter un peu l'intérêt quand même.
Oui, bien sûr.
Il y a matière à débat, il y a matière à discussion. Hein.
Oui, parce que, excuse-moi, bonjour Virginie, tu parles de création d'une nouvelle classe sociale, et quelle est-elle cette classe sociale ? Est-ce que c'est propre aux États-Unis ? Est-ce que c'est... Enfin, j'ai pas trop suivi là, en fait.
Non, je parle de... Dans le sens où, si vous voulez, il y a une... C'est une culture de classe un peu au départ, oui, c'est-à-dire qu'en gros, oui. on va être dans quelque chose qui s'approprie à une classe populaire, d'accord, à un mode, oui, de vie, à aussi une population qui va se retrouver aussi pas forcément économiquement avec la possibilité de faire énormément de choses. Mm. Et donc qui va créer des activités au sein même de l'espace qui leur est donné.
Mm. D'accord, oui.
Mais est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Est-ce que, enfin, peut-être
non, étant avec l'institutionnalisation et le marché de l'art, effectivement, c'est ce qu'on pourra voir, hein. Mm. Ça va tendre est-ce que ça devienne plus une culture peut-être plus mature, voire même bourgeoise, dans le côté bourgeoise de la culture, pas de la classe. Hein. Oui, alors, oui, un petit peu quand même, mais elle va se populariser et même s'étendre à différentes classes sociales. Ouais. Mais ça reste quand même assez codifié encore pour certaines personnes qui vont continuer à faire véhiculer des espèces de stéréotypes un peu de cette culture.
Et tes propos...
Mais c'est bien aussi. Hein.
Oui. Et tes propos viennent de ton expérience, enfin, ta recherche est-elle spécifiquement expérimentale ou est-ce que tu as travaillé avec des chercheurs ou d'autres, fait des entretiens, je ne sais quoi.
Alors, j'ai été sujet, moi, un peu sujet d'étude de certaines personnes en sociologie ou en anthropo, même là, c'était des gens qui sont en histoire de l'art, voilà, qui peuvent effectivement amener à débat sur ce sujet. Après, essentiellement, moi, c'est de l'expérience de terrain. C'est d'avoir pendant 25 ans vadrouillé pour aller graffer sur le terrain, rencontrer des acteurs de terrain. Et j'allais jusqu'à New York, faire partie d'un crew new-yorkais, de discuter avec les acteurs du graffiti new-yorkais, enfin certains qui ont bien voulu graffer avec moi à des moments. Et j'ai même été emmené à une expo où j'ai pu rencontrer quelques pionniers du mouvement auxquels j'ai pu un peu, en tout cas, partager et écouter surtout. Parce qu'en fait, on est là pour apprendre, hein, et on apprend encore aujourd'hui. Voilà, de cette expérience et du graffiti. Et puis, pour maintenant, après 25 ans, quand même, avoir une vision un peu plus large de la culture française du graffiti, de ses acteurs, de ce qui s'y passe, de la façon dont ça évolue. Voilà, c'est quelque chose qui me suscite un intérêt et qui stimule une vraie passion chez moi, mais j'ai pas mal de copains aussi avec lesquels on peut avoir débat là-dessus. C'est très subjectif, hein, encore une fois. Hein. Mmh. Très subjectif, mais après, c'est un constat de fait de terrain, quoi.
Et est-ce qu'il y a une grande différence dans la culture graphe aux États-Unis et en France ? Enfin, la culture graphe, je ne sais pas si on dit ça.
Ça dépend sur quel point de vue il y a une grande différence qui est intrinsèque à la culture propre du pays, en fait. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, on va avoir un respect. Aux États-Unis, on va être congratulé, enfin respecté, parce que par exemple, on va réussir financièrement, économiquement dans ce truc-là. Effectivement, en France, où on a eu plus une culture hip-hop de revendication sociale, qui était celle aussi un peu américaine, mais qui du coup va être plus dans le sens si vous gagnez des sous, si vous n'avez pas partagé. Vous voyez ce que je veux dire ? Mmh. On a discuté un peu. Alors effectivement, il y a ce point de vue-là. Après, en termes purement graffiti, l'école new-yorkaise va être très traditionnelle et ils vont être admiratifs un peu de l'école européenne parce qu'elle va se permettre d'avoir un côté plus, peut-être moins traditionnel justement sur les codes graphiques, sur la façon de faire les représentations et tout, mais justement va apporter une certaine fraîcheur qui a bien marché dans les années 2000 par exemple. Et puis eux vont être vraiment dans le côté moi pour ceux que j'ai rencontrés ils étaient fiers d'avoir un travail de tradition dans la façon dont ils allaient dessiner, vous savez, un peu comme un artisan en fait. Moi je vois vraiment ce côté artisanat du graffiti, c'est-à-dire qu'eux ils vont dire bah ouais, nous on sait faire une belle pièce et on va essayer de la faire la mieux possible avec les règles et les codes de traditionnels, et nous on va essayer plus ou moins. Il me semble, pour certains, même si il y a des courants hein, dans le graffiti avec des modes, on va essayer quand même d'apporter quelque chose qui sera influencé de façon inconsciente ou consciente par la culture de la peinture européenne, en fait. De la peinture et de l'imagerie européenne, c'est-à-dire la culture de la bande dessinée, la culture des grands peintres européens, classiques, français, italiens, ou allemands ou hollandais, par exemple. Qui vont influencer les lumières, la couleur. Là, en fait, ce qui est intéressant dans le graffiti, comme on peut l'observer, c'est que la culture du pays, la culture, l'éducation que reçoivent les gens, va influencer toutes les cultures, quoi, toutes les façons de faire, en fait, du graffiti.
D'accord.
Est-ce que c'est clair pour vous, ça ?
Oui, c'est très clair, c'est très intéressant, ça donne envie d'aller voir la conférence.
Et du coup, j'ai une question. Toi, en fait, ton travail, tu le traduis comment, en fait ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Bon, mis à part, j'ai bien compris, par rapport à ce qui nous entoure, le monde, les événements. Voilà. Comment toi, tu te présenterais
Ce que je fais moi, personnellement, ou mon travail ?
Ton travail d'artiste, comment tu le...
Il va se partager en deux parties. Il y a la partie, effectivement, qui va être la transmission. Alors ça, on pourra en parler, toute la dimension sociale, qui va être, en fait, pour moi, parce que c'est ce que je retiens de la culture hip-hop, c'est cette façon d'éducation populaire. Donc, encore une fois, c'est un savoir-faire qui est transmissible par le fait de faire, hein, vraiment. Donc, c'est aussi là-dedans que ça m'intéresse de pouvoir transmettre des choses. Je veux pas garder un savoir pour le garder pour moi, c'est-à-dire vraiment de pouvoir transmettre. Et puis aussi, donner à une certaine population, par exemple, qui peut être peut-être victime d'échecs scolaires ou d'exclusion pour certaines structures, la possibilité de s'exprimer par un biais graphique, de façon à valoriser aussi ces personnes-là et de pouvoir faire un travail peut-être inclusif, même dans le milieu du handicap, par exemple, ou de la psychiatrie. Ça, c'est une première partie qui est vraiment aujourd'hui que je prône comme étant une partie de la démarche artistique. Et après, dans mon travail à moi, personnellement, ce que je vais faire sur mur, je vais questionner ce que j'ai appris pour pouvoir justement à chaque fois essayer d'en sortir et apprendre un nouveau truc. C'est un peu plus vaste là peut-être.
Ouais, c'est... d'accord. Mais bon, j'ai un peu lu que tu t'inspirais des phénomènes et des enjeux sociaux. C'est pour ça que je voulais que tu me donnes des exemples.
Complètement.
Voilà, mais bon.
Dans mon travail, oui. Graphiquement, un peu moins maintenant, parce que je suis revenu à qu'est-ce que les graffeurs ont envie de voir, parce que c'est une compétition un peu. Il y a un côté sportif dans notre discipline.
C'est vrai, c'est vrai. Mais donc, c'est vrai que dans tout ce qu'on voit, oui, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui sont différentes. Mais moi, ce que j'ai vu dans ton travail, hein, c'est assez spontané, hein, ce que je vais dire, hein, mais j'ai vu qu'il y avait quand même des visages, c'était un peu hardcore, quoi. C'était assez dur, quoi. Je sentais quelque chose, une histoire, un message. Voilà, bon, c'est juste un échantillon de ce que j'ai pu voir, hein, peut-être. Il y a d'autres choses.
Non, mais c'est très bien. Je fais plus de visage et tout actuellement. Là, je travaille sur autre chose. Je travaille sur le côté chorégraphique et mouvement du graffiti. Mais pendant 20 ans, j'avais pour but vraiment de pouvoir faire des visages. Alors effectivement, qui pouvait paraître dur, mais en fait, il fallait que je puisse trouver un exutoire à ce que moi j'emmagasinais dans ce que je fais en structure.
C'est ce que je me suis dit.
Et quand vous travaillez avec des gamins qui ont été tabassés, violés ou qui ont été maltraités, ou même des adultes qui du coup ont un certain handicap qui font que ils sont dans un système qui peut être un peu exclusif à des moments, donc c'était vraiment de l'exclusion sociale. Et ben vous essayez d'apporter quelque chose à ces gens-là, mais vous absorbez aussi malheureusement une part de la lourdeur peut-être, du poids de ce que eux ont pu vivre. Et quand vous commencez dans ce métier-là, effectivement, vous pouvez pas être une éponge qui ne peut pas être essorée à un moment ou à un autre. Et donc, vous allez peut-être trouver le mur comme un exutoire pour redonner aux gens l'image que vous avez pu percevoir. Oui. Et que, heureusement pour eux, tout le monde travaille pas dans le social et n'a pas connaissance de ces choses-là, mais en tout cas, à un moment, de se dire, voilà, c'est aussi ça, la classe populaire, il y a aussi ça dedans, quoi. Dans une misère sociale, il y a aussi ça aujourd'hui.
Très bien.
Bon,
très bien.
J'en suis sorti, hein, mais...
Je
le traduis autrement.
Et tu disais tout à l'heure, il y a comme une compétition entre artistes. Ça veut dire que finalement, quand on voit des graphes sur des murs, dans la rue ou quoi, c'est pas seulement à destination du public ou des passants, des habitants, habitantes de la ville, c'est aussi à destination des autres artistes.
Ouais, il y a quand même, dans l'art, faut pas se leurrer, hein, quelle que soit la discipline, que ce soit la chanson, que ce soit... C'est quand même un milieu assez... Il y a quand même un égocentrisme, il y a quand même une forme un peu narcissique chez l'artiste. Je veux dire, il se met en avant, ou non chez le graffeur, mais il se met en avant. En tout cas, là, chez le graffeur, il y a une forme de « j'existe ». J'ai mis mon nom là, j'ai pas le droit, mais moi, j'impose le fait que j'existe dans votre espace. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, à travers ça, il y a une espèce de compétition esthétique de montrer qu'on existe à travers l'exploitation psychogéographique. C'est-à-dire que en fonction de l'environnement urbain et de la place que vous y mettez et de là où vous avez posé votre truc, ça va avoir un impact à la fois sur le public, mais aussi sur les autres graffeurs. Et donc, en termes de calligraphie, en termes d'esthétique, en termes de choix de l'espace, où vous allez taguer, où vous allez graffer, effectivement, il y a une forme de compétition, une forme de jeu qui va s'instaurer. Parce que c'est un jeu de territoire qui existe depuis le début. Hein. C'est-à-dire que j'existe, mais je m'approprie un territoire. Parce qu'en fait, l'État ou la société ne m'a pas donné... peut-être cet espace, et ben moi je le prends. Vous voyez ce que je veux dire?
Tout à fait.
En fait, c'est comme si on marquait son territoire. Là, hein. Pardon. Je disais, c'est comme si on marquait son territoire, en fait.
Complètement. C'est animal, hein.
Ah ouais, j'avais envie de dire un peu comme les chats. Non, je dis ça, j'adore les chats.
Ah, oui,
mais
oui,
c'est
oui,
vrai, c'est ce marquage, non, mais cette signature... Alors au début c'était un peu, on graffe un peu en mode clandestin et bon là c'est de plus en plus formalisé sur des lieux un peu emblématiques, ça prend une autre dimension quand même. Hein.
Ça prend une autre dimension, alors après c'est une question esthétique aussi, c'est-à-dire qu'on aime ou on n'aime pas le tag, on aime ou on n'aime pas le lettrage, on aime ou on n'aime pas effectivement les choses et on a su nous arriver à démontrer aussi que de par notre discipline, il y avait une dimension artistique qui n'était pas forcément quelque chose de si évident que les gens pouvaient l'imaginer en voyant un tag.
Mais il y a aussi une dimension fortement politique, puisque dans ce que tu exprimais tout à l'heure, quand tu disais pendant 20 ans j'ai dessiné des visages, j'ai exulté toute la misère du monde, il y a toute cette dimension politique quand même dans le graphe aussi.
Il y a complètement cette notion politique. Après, elle est encore une fois subjective. Alors heureusement pour moi, je ne suis pas tout seul là-dedans, et heureusement pour nous d'ailleurs, on n'est pas tout seul là-dedans. Elle tend aujourd'hui quand même à essayer de plaire, donc peut-être à moins se démarquer politiquement qu'elle a pu l'être à un moment. Voire même, il faut savoir qu'il y a des collectifs qui ont pu faire des dessins à des moments qui étaient plus politiques et qui se sont fait censurer, alors qu'ils étaient dans la légalité de pouvoir faire ça sur ce support. Donc effectivement, il y a aussi cet enjeu-là. Mmh. Et puis souvent, on est aussi payé par les collectivités quand on fait cette démarche-là.
Bien sûr.
Et donc, il y a un moment, on va pas aller cracher dans la soupe de ceux qui nous font manger. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oh bon, on voit très bien.
Ça s'appelle du compromis. Ça s'appelle du compromis. On l'a tous, hein. C'est la contrainte dans le travail, on l'a dans ce système.
Merci, la collectivité.
Tout à fait.
Eh ben, en tout cas, ça donne envie de...
Attendez, c'est pas l'opposition du graffeur contre la collectivité, hein. Et je défends encore le service public à travers.
C'est vrai, c'est une bonne chose. Ça, service public.
Merci beaucoup. Ça donne envie de venir voir la conférence du 12 avril. Donc oui, on rappelle la date, c'est le 12 avril.
Le 12 avril à 17h30 à l'espace Quinière Rosa Park. Et c'est une entrée gratuite. Voilà. Venez tous en famille. Voilà. Et après, il y a plein de rendez-vous sur l'espace public. Donc, notamment le 19 avril, c'est dans des coins du quartier, impasse Boileau. 25 mai à l'île aux Corneilles. Et le 15 juin, rue Beaumarchais. Voilà, donc on sera sur un mode cellophane pour être plus sur des œuvres, on va dire, éphémères.
Éphémères.
Ouais, voilà.
Super.
Super, je vous attends. Je suis impatient d'être le 12 avril.
Voilà.
Ça va arriver vite. Hein,
oui, c'est vrai.
On se voit sur place.
Ouais. Et ben, merci beaucoup et à très vite à Blois.
Ouais, merci beaucoup,
bientôt,
Mathieu.
Merci.
Merci, Monsieur Plume.
Merci. Bonne journée, bon courage.
Merci.
Au revoir.
On va faire une petite pause musicale avec une chanson que tu as choisie, Radija, de Ella Fitzgerald. Et ça s'appelle « Merci » vraiment, parce que c'est pas facile à dire.
Je te laisse prononcer.
Oui, mais je sais bien. « Bewitched », je sais pas, tu veux dire ?
Ce que je veux te dire, c'est que c'est une chanson d'amour et c'est une artiste que j'aime profondément. Et voilà, c'est une belle chanson d'amour. Ouais. Donc, on va pas écorcher ce titre qui est magnifique et surtout une belle interprétation.
On écoute.
After one whole quart of brandy, like a daisy, I'm away. With no Broma seltzer handy, I don't even shake. Men are not a new sensation. I've done pretty well, I think. But this half-pint imitation put me on the blink. I'm wild again, beguiled again, a simpering, whimpering child again, bewitched, bothered, and bewildered am I. Couldn't sleep and wouldn't sleep when love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered, and bewildered am I. Lost my heart, but what of it? He is cold, can laugh, but I love it, although the laugh each bring to him, and long for the day when I'll cling to him. Bewitched, bothered, and bewildered, am I? He's a fool, and don't I know it? But a fool can have his charms. I'm in love and don't I show it, like a babe in arms. Love's the same old sad sensation. Lately I've not slept a wink since this half pint imitation put me on the blink. I've sinned a lot, I mean a lot, but I'm like sweet 17 a lot. Bewitched, bothered, and bewildered am I. Sing to him each spring to him, and worship the trousers that cling to him. Bewitched, bothered, and bewildered am I. When he talks, he is seeking words to get off his chest. Horizontally speaking, he's at his very best. Vexed again, perplexed again. Thank God I can be oversexed again. Bewitched, bothered, and bewildered am I. Wise at last, my eyes at last are cutting you down to your size at last. Bewitched, bothered, and bewildered no more. Burned a lot, but learned a lot. And now you are broke, so you earned a lot. Bewitched, bothered, and bewildered no more. Couldn't eat, was dyspeptic. Life was so hard to bear. Now my heart's antiseptic since you moved out of there. Romance, Finny, your chance, Finny. Those ants that invaded my pants, Finny. Bewitched, bothered, and bewildered no more.
C'était Ella Fitzgerald. Et je ne recommencerai pas à dire le titre de la chanson. Donc, on peut parler rapidement de la résidence d'Albert, qui se passera donc en juillet, c'est ça ?
Oui, en juillet, donc on accueillera Monsieur Albert, donc du 4 au 10 juillet, donc dans le quartier de la Quinière, précisément rue Jean de la Fontaine. Donc c'est une rue. Le mur donc qui sera graffé, c'est un mur qui est face à l'école Molière. Voilà, donc on va avoir plein d'ateliers autour de cette résidence. Hein. Vous pourrez nous retrouver avec la ludothèque, la ludonomade. Des lectures aussi sur l'espace public, il y aura aussi des pique-niques, il y aura sûrement aussi une petite session autour du break avec l'association La Cour, voilà, des petits moments conviviaux qui inviteront en fait les habitants à venir échanger avec, l'artiste, avec Albert, sur son œuvre et sur sa pratique de graffeur. Voilà. Donc après, il y a d'autres rendez-vous. Peut-être que ça mériterait une autre émission pour parler plus en détail sur notre été, voilà, qui va aussi traduire sur une semaine un lieu, des animations, une soirée. Voilà, c'est un nouveau concept qu'on développe là sur Quinières Décale. Mais je pense que ce serait intéressant d'inviter d'autres collègues pour en parler plus en détail.
On en reparlera en juillet. En juin ou en juillet ?
En juin, ouais, ça peut être intéressant. Merci.
Eh ben, merci à toi.
Merci.
Merci. On rappelle que pour l'ALEP, on a un concert. On accueille Agnès Bill le 29 avril. C'est un vendredi à 20h30. Et puis, on vous souhaite un beau mois d'avril.
Bonne soirée. Au revoir.
Bonne soirée.